la différence.
France Inter, 3h05. Dans quelques instants, Serge Levaillant recevra Alain Leprest pour son album « Quand auront fondu les banquises ».
T'es mort, quand j'avais mordu la poussière, devenu un ice cream, un pain de glace, pris la glacière quand j'étais raide, quand j'étais prêt d'avoir un bilan, sous les tant pis si la gaspille son pas blanc, quand j'ai eu rejoint, quand marchant le joint sur son nuage, intermittent, inexistant à son image. Combien heureux du ventre creux du Kidornine, dire que mon parfum ressemble enfin à celui de Chelstein. Je me rappelle la dernière pelle que m'a voulu le fossoyeur, le banc des voyeurs venu saluer. Triste plateau, trois planches de chêne, sans fil d'attente devant ma tente, oxygène. Quand les corbeaux ont trouvé beau et les verbeaux, quand mon trépas ne trouva pas aucun bon, pour faire un vœu de tant de vœux, à l'heure où sonnent des téléphones imaginaires. Je me souviens avoir en vain prêté d'ordure, le vent qui frôle est un peu trop à sépulture. Ce vent doux qui m'avait ravi, j'ai envie de dire, suffisamment qu'on va s'éventer comme on respire. Quand je fus une revue, la seule scrupule d'avoir peut-être choisi l'enfer sans savoir fermer la fenêtre, c'était l'espoir d'entendre et voir chers escroquiers sur mon caveau résonner vos cœurs et vos pieds.
Sous les étoiles exactement sur France Inter, en compagnie cette nuit de notre cher Alain Leprest. Dites-moi, on démarre fort là, cassez l'ambiance là.
Ça plombe. Hein.
C'est extrait de votre nouvel album intitulé « Quand auront fondu les banquises ». Ça va ?
Oui.
Vous savez ce que ça veut dire, ça va ?
Oui. Bonjour, cher Serge. Parce que je vous dis ça parce que je m'étais promis que si je parvenais à dire cette phrase qui est très difficile à prononcer, je serais d'attaque pour démarrer cet entretien. Alors, voilà. Donc, je suis d'attaque. Ah oui, maintenant, oui.
Il est dans les bacs. Il réunit pas mal de copains qu'on va citer tous. On va même s'arrêter parfois pour leur adresser un salut amical.
Bien entendu.
L'Académie Charles Cros vient de vous récompenser, m'a-t-on dit ?
Oui. Alors, il s'agit de, oui, d'un prix qui jalonne un peu le travail. On appelle ça un travail, hein. C'est un travail plaisir de jouissance à la fois, qui s'étale à peu près sur 20 années quand même. Et puis, sur 8 ou 9 albums. Voilà, et puis c'est... Oui, puis je le déchire, en quelque sorte, avec beaucoup d'amis qui m'ont à la fois supporté, accompagné, enjolivé pendant toutes ces années. Et
le complice de toujours, Romain Didier, des amis comme Gérard Pierron, comme Étienne Goupil, comme d'autres. Enfin, après, on oublie toujours des noms.
Bon, l'Académie Charles Cros, le prix, c'est pas un déshonneur. Quand on voit le générique fabuleux qui représente un pan de notre mémoire collective, on doit être heureux d'y figurer.
Ah ben bien sûr. Bien sûr, non, j'ai jamais, en définitive, craché dans la soupe et dans les honneurs, comme on dit, quoi. C'est pour ça que je suis fier de pouvoir le partager, en quelque sorte. Voilà.
La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour chez Le Prest.
Oui.
Ça aussi, c'était
aussi un
beau cadeau.
Un croc d'amitié, quoi, décerné par une profession qu'on dit souvent égoïste, refermée sur elle-même. Et j'ai eu l'occasion d'avoir ces derniers temps beaucoup de témoignages de sympathie de gens que je ne croyais pas forcément être mes proches ou que je croyais tout bêtement, je veux dire, être étranger à mon travail. J'ai découvert des gens tout à fait étrangers qui allaient d'Hervé Villard au côté punk, à Loïc Lantoine, que vous avez reçu.
Loïc Lantoine, c'est votre pote depuis des années.
Oui,
il n'est pas
sûr.
Étranger à votre
oui, bien
univers.
Sûr, mais tout ce Fugain, tout ce...
Olivia Ruiz.
Voilà. Alors, qui rassemble à la fois les âges, les sensibilités, l'émotion. Et on en est très, très étonné soi-même, ému, et on se dit tout d'un coup, mais bon sang, bah oui, après tout, je fais de la chanson, et chose à laquelle on ne croyait pas, chanson, finalement, sans trop le savoir, parce que, un peu parano, on se croit un peu boudé du métier, on se croit un peu en marge, on s'y met un petit peu, on se met en banlieue de soi-même, et puis, d'un coup, les gens te disent, bah ouais, viens avec nous, bah tu fais le même métier que nous, quoi, ça fait vachement plaisir, ça réchauffe.
Alors ce disque est toujours d'actualité, hein. Chez Le Prest, c'est la reprise de vos chansons par toute cette bande, effectivement hétéroclite, c'est pas la même famille, c'est pas les indés, ceux qui passent à la télé, voilà, c'est très mélangé, et puis aussi mélangé dans les âges.
Oui, c'est ma maman qui aurait été contente de voir ça, elle qui aimait tant Hervé Villard et moi qui l'aime aussi, qui ai découvert un homme véritable, je veux dire, qui aimait beaucoup, je veux dire, autant, je veux dire, la jeune génération que Louis Aragon, René Char, Éluard, un homme énormément cultivé, et puis cette jeune génération que je n'ai pas quitté des yeux et qui, par bonheur, n'a pas lâché le vieux que je suis. Et
oh,
faut être
j'ai
honnête,
quoi, j'ai 50 balais.
Oui, hein, vous savez, dans ce métier-là. Moi, j'entre un peu dans la carrière, quand les aînés des jeux, j'ai ce sentiment de, pas d'une renaissance, mais d'une naissance. C'est vrai qu'on dit souvent dans ce boulot, il est plus difficile de remonter les escaliers que de les descendre. Enfin.
Mais faire rimer Hervé Villard et René Char.
Oui.
Ils vont être contents.
C'est un chanteur de charme. Il paraît que René Char ait beaucoup de charme.
Ah, je pensais que vous disiez que René Char était un chanteur de charme. Alain Le Prest, quand auront fondu les banquises.
Dans longtemps, mais on ne sait plus trop ce que veut dire longtemps. C'est sûr, les bouches du métro vont boire pour leur content. L'hippodrome, l'île de la cité, Rouen, Ivry, le Mont-Saint-Aignan verront paître des cétacés et monter les souilles d'océan. On trinquera dans l'univers des étoiles ogivrées en guise du jus de glaçons plein nos verres quand auront fondu les banquises. Banquise, on verra le dernier pingouin en queue de pie sur les marquises danser sur la tombe à Gauguin. On se rappellera d'hier, de brise-glace et d'Atalante, quand le feu plantera sa cueillère au milieu des îles flottantes. Quelques rêveurs diront encore, c'est une ruse, elle se déguise pour souffler la terre et le mort quand auront fondu les banquises. Colombe de Braque aura chuté de la falaise, se jouant
entassés sur nos barques, on vivra debout sur nos chaises. L'horizon loin de l'horizon, les étoiles seront noyées. Et tu ne seras plus de saison dans cet arche humain de Noé. Un million d'été saluera la dernière plage conquise, avec des flammes plein les bras quand auront fondu les banquises. Ce que veut dire longtemps, plus de verglas dans l'apéro, plus d'apéro au Vatican. Fini la neige et le grêlon, d'autres galaxies les emportent. Vivre nous quitte à reculons, glissant ces icebergs sous nos portes. Dans mille ans, peut-être plus d'heures, fini les couteaux qu'on aiguise pour l'assiette du prédateur en taureau fondu.
La chanson qui donne son nom à l'album, Alain Leprest, un album intitulé « Quand auront fondu les banquises ». C'est une belle idée, vous avez souvent des idées originales. Là, c'est l'occasion de rappeler l'itinéraire de votre enfance, par exemple avec Mont-Saint-Aignan, avec des noms de villes, des sensations. C'est une chanson signée, co-signée avec Romain Didier. Lui, c'est le complice de toujours.
Ben, je crois bien que ça fait quoi. Et c'est vrai, j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qu'il a pu apporter à ses paroles, parce que on laisse un brouillon et puis on y ajoute une partition, et puis tout ça, passé à travers le mixeur de l'interprétation, on finit par donner une chanson, mais il faut une sacrée complicité quand même. Et puis je pense qu'elle a le temps de s'installer. À chaque fois que je pense à Romain, je vois nos joutes un petit peu au bord du piano, dans des tas de brouillons, avec des notes qui se dispersent un peu partout. Et puis...
Ça, c'est vous, ça.
Oui.
Il l'a raconté. Mais vous arrivez chez lui, vous sortez de vos poches des papiers. D'ailleurs, oui. Petit papier dont on voit un exemplaire sur ce disque.
Oui.
Vous écrivez au dos de la pochette.
Oui, c'est une manière de faire, quoi.
Ah bah, c'est une manière de poète.
Oui. Il y en a qui sont très rangés aussi. Bon, chacun a sa manière d'écrire et de composer, je pense. Et des fois, c'est simplement que le cerveau qui bosse à notre insu, quoi. Une espèce de latence comme ça derrière la tête, les choses qui s'accumulent et qui ressortent tout d'un coup. Je pense pas qu'il y ait de types généraux pour l'écriture. En tout cas, moi, c'est la mienne, c'est d'accumuler toujours des petits bouts de paplard. Ouais, ça, c'est vrai.
Certains patrons de boîte disaient à Charlie Parker, « Non, mais t'as vu comment t'arrives tout en guenille, là, le costume fripé, la cravate tire-bouchonnée. » Ils disaient, « Écoutez, si vous voulez que je m'habille en notaire, je vais vous faire de la musique de notaire. »
Ah, très joli.
Vous avez une vie de poète ?
Oh, je ne sais pas ce que c'est la vie d'un poète. En tout cas, je sais ce que c'est la vie d'un notaire, ça c'est certain.
Ça c'est facile, ça. Non, vous savez pas ce que c'est la vie d'un notaire.
Non, je ne sais pas trop. Peut-être que c'est d'être des fois un peu trop... On paraît trop absent aux autres, chose qu'on n'est pas du tout, chose que je ne suis pas du tout. Mais ça occupe tellement l'esprit, le fait de vouloir voler une phrase, de ne pas vouloir la perdre, de regarder les choses en étant à l'affût d'une chanson, d'une idée, c'est sans devenir une marotte, ça devient quand même, ni une sale manie, ça devient quand même quelque chose de très, très ludique. Alors on regarde souvent celui qui écrit, le créateur, comme quelqu'un qui est absent. Je ne crois pas l'être, parce que par ailleurs j'ai une vie de couple. Il y a un petit gamin de 5 ans qui gambade entre mes pattes. J'y fais attention.
Vous avez intérêt.
Et bien sûr, oui, de ne pas marcher dessus, d'une part. Et puis, voilà, moi, je fais aussi, je vide aussi des machines à laver, je range de la vaisselle dans le dans... Voilà, non, je suis un homme normal, en fait, mais qui, en plus, je dirais, a envie de mettre des rimes au bout des mots, de magnifier des choses, de chanter.
Vous avez d'autres enfants ? Je parle artistiquement.
Ah, j'ai une grande fille.
Non, je dis artistiquement.
Ah, notre enfant. Ça serait trop vieillir.
Oui, ah bah, non, mais vous avez dit tout à l'heure, je suis vieux.
Oui. Ah, mais j'ai une, quand même une fille qui chante, qui s'appelle Fantine, qui m'a fait l'amitié de venir chanter dans chez Le Prest. Elle est, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle joue le panier, elle commence à avoir son petit nom. D'ici à ce qu'elle balance son papa comme le font tous les enfants du haut du caniveau. Oh, mais vous allez voir. Et puis un grand-fils. Et alors, musicalement, je ne sais pas trop, c'est moi qui m'intéresse véritablement à ce qui se fait aujourd'hui. Avec un regard critique, un regard amoureux, à la fois, comme vous pouvez l'avoir, par exemple. Je n'ai pas l'âge de Nougaro, mais Nougaro, par exemple, peu avant sa disparition, avait un regard, une oreille très attentive.
Il disait des choses mirifiques sur vous.
Au slam, etc. et tout.
Il disait voilà. Des choses mirifiques sur vous. Il me considérait comme l'un des plus grands auteurs, sinon le plus grand auteur de sa génération. Car il y a des générations en chanson.
Effectivement.
Et vous êtes, vous aussi, une charnière entre des générations, comme oui. Toutes s'articulent les unes avec les autres. Vous êtes arrivé à un moment, et vous vous êtes exprimé à un moment où on avait besoin de vous. La chanson était extrêmement populaire, on va dire le début des années 80, avec des chansons qui n'avaient guère de sens, qui étaient parfois plaisantes, mais guère de sens. On était dans le léger, dans l'apparence, et vous nous avez fait revenir la chanson dans l'essence, dans l'universalité, dans des choses fortes qui parlent à tous. Non, mais c'était pas une question, c'est moi qui le dis. Mais si vous voulez commenter...
Non, mais je vous en remercie, parce que à la fois, effectivement, cette filiation, j'ai pas eu le sentiment de rompre ni de trahir cet amour profond que j'ai pour la chanson réaliste, par exemple, et par, de toute évidence, je veux dire, ce que la jeunesse a à faire aujourd'hui, c'est-à-dire de dépasser tout cela, quoi, et de le dire d'une autre manière, parce que le langage a évolué, parce que les outils ont évolué, parce que non pas leurs yeux, la musique a évolué, etc. Et c'est l'émotion qui doit subsister en tout état de cause. Vraiment, moi, j'écoute une chanson, je suis attentif à l'émotion, aux ultra-rouges, aux ultra-violets, qui
se dégagent. Mais sans l'émotion facile, sans tomber dans le pathos.
Oui, c'est ça.
Faut qu'elle reste digne, cette chanson.
Faut qu'elle soit droite, faut qu'elle ait une vertèbre, Ce qui m'étonne un petit peu, là où je pourrais me permettre d'être critique, c'est que peut-être, la jeune chanson, peut-être que d'autres générations...
Critiquez pas les jeunes, malheureux.
Si,
ils ont toujours raison.
J'aime bien être un peu de polémique.
C'est ce que disait Cocteau, et il avait raison, lui-même.
Non, j'aime bien un peu de polémique, non. Pas tous. Mais il suffit pas d'être jeune, je veux dire, pour avoir inventé un style. Il faut aussi savoir se nourrir de références. Et, je veux dire, écoutant... Ça n'est pas la seule référence, mais Loïc, par exemple, Loïc Lantoine, ou d'autres, ou le côté punk, ou d'autres, je veux dire, peut-être de jeunes, ou NSB, etc., et tout, par rapport à Anne Sylvestre, je veux dire, il y a une, à travers Brassens, Jean-René Cossimon, etc. et tout, il y a déjà une force de violenté de langage, de le slammer en quelque sorte. Hein. Moi, ça m'est arrivé, excusez-moi, hein, vous me coupez si je suis trop bavard. J'écoutais un jeune qui me disait je fais du slam, et un jour j'étais un peu irrité, je lui disais capitaine, qu'ils sont partis lointains. Mais il me regardait comme ça, il me disait ouah, c'est chouette ça, et c'est ouah, c'est. Ben, je dis oh, ça a deux siècles hein, quand même. Voilà, c'est, mais oui, c'est. Souvent, ça procède en alexandrin ou en octosyllabe, le slam. Mais c'est comme dans Monsieur Jourdain. Je veux dire, on fait de l'alexandrin ou l'octosyllabe sans savoir, quoi.
Vous animez toujours des ateliers?
Toujours, oui. Oh, toujours. Si les copains m'entendent, ils vont me dire t'es pas toujours à l'heure. Mais parce que j'habite maintenant Paris et que l'atelier. Mais ce qui est bien, c'est de créer l'impulsion et que ça essaime. Un peu partout, et c'est arrivé que d'autres en reforment à droite, à gauche, et je crois que maintenant avec d'autres outils comme Internet, etc., ou des salles de café, il y a cette volonté d'émulation, de rencontre à travers des mots. Il y a beaucoup de gens qui écrivent chez eux, finalement, dans le plus grand secret, même de leur conjoint ou de leur conjointe, qui n'osent pas dire sur leur lieu de travail, moi, tu sais, j'ai fait un poème. Ça paraît bête.
Mais c'est
ça
bête.
Ça paraît con.
Mais
ça
non.
Paraît, je sais pas quoi. Pédé, peut-être.
Ah bon?
On a écrit un poème. Voilà. Alors, je dis non. Il y en a beaucoup qui arrivent en France. 100 000 ou quelque chose comme ça.
Alors, on est beaucoup de pédé et on est très bête.
Beaucoup de pédé en France. J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris. De prendre soin de moi et je t'en remercie. Que tu vas me reviendre et tout seul consomme. Et arrose les fleurs une fois par semaine. Mon amour, je te jure, les fleurs je les fais boire. Ensemble on est pété, tu pourrais pas le croire. Je recycle ces mots, je suis parti sans haine. Arrose les fleurs une fois par semaine. À quoi me sert sans toi de me priver de clope? D'un Saint-Émilion, j'ai sur moi l'enveloppe. Où ta main tracée, je rentre sous l'item. Mais arrose les fleurs une fois par semaine. J'ai appris à parler végétal. Et je compte les jours comme autant de pétales. Je relis ton courrier, c'est pas un problème. Sauf d'arroser des fleurs une fois par semaine. J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris de prendre soin de moi et je t'en remercie. J'imagine un jardin où nos pas se promènent en arrosant les fleurs une fois par semaine. En arrosant les fleurs une fois par semaine.
Sous les étoiles exactement sur France Inter. Bon, c'est pas très prime sautier ce que vous chantez, là, Alain Leprest, depuis le début de cette émission.
Pardon?
Ça n'est pas très printanier, ni prime sautier, ni léger.
Oh.
Ça fait pas poète-poète.
Non, mais c'est-à-dire que, évidemment, sur un disque, l'auditeur ne perçoit pas des fois le léger sourire en coin des lèvres, je veux dire, qui anime l'interprète. Mais des fois, je veux dire, ça peut être un peu d'ironie, ça peut être un peu grinçant, ça peut être simplement du désamusement. Sauf cette chanson, par exemple, qui est une chanson de tendresse, par exemple, que je crois une chanson de tendresse. Non, mais oh, je suis capable de rire, vous savez, en dehors, à l'extérieur, sur les côtés, devant mon métier. Et surtout de rire de ce métier, en définitive. Non, mais je dis ça parce que je n'en ai jamais été aigri, finalement.
Enfin, vous avez connu, comme beaucoup d'artistes intègres, la période des vaches enragées.
Je n'ai connu que ça.
Alors, et on doit bouillir intérieurement en disant quand même. En revanche, je le dis, à partir du moment où vous avez pu vous exprimer et vous faire écouter par d'autres, vous avez séduit toute une nouvelle génération. Et elle vient en témoigner ici. On pourrait citer des noms, mais beaucoup qui vous ont vu en scène se sont dit, mais il se passe quelque chose. Cette voix qui transmet des émotions dignes, des gamins et des gamines se sont dit, mais ce que j'écris dans mon journal intime, finalement, si j'arrive à lui donner une forme, je vais pouvoir parler aux autres et les autres vont se reconnaître dans ce que je dis et je vais me sentir moins seul sur la planète.
Oui, ce silence, ça me permet de réfléchir à la fois pourquoi. On arrive, c'est vrai, j'y réponds avec beaucoup d'émotion à produire ce sentiment chez des minots, quoi, ou chez des gens adultes comme moi, quoi. Parce que, un jour, on m'avait fait ce très bon compliment, on m'avait dit, le Brest arrive à mettre les mêmes mots que nous, mais à leur place. C'est-à-dire que je suis un peineux de l'écriture et je prends la même phrase et je la torture jusqu'à temps que elle sonne à slam, comme on dit aujourd'hui, ou elle rate, ou comme on veut. Mais je pense que le son donne du sens, quoi. Et que j'ai eu l'occasion d'en parler avec vous et je n'imagine pas une chanson qui démarre sur une phrase et qui n'est pas une chute. Il n'est pas la volonté de pouvoir dire quelque chose, comme disait quelqu'un que j'ai très peu l'occasion de connaître, Rodagile, utile, quoi.
Ouais. À quoi sert une chanson si elle est désarmée?
Oui, elle est formidable parce que ce qui ne m'empêche pas de penser au rôle utile d'une chanson très légère. Comme le son, celle de traîner, à condition de s'en méfier, parce qu'elles ont aussi un double revers. Aussi, les chansons de traîner, elles peuvent être très, très colorées.
Et très coquines.
Bien sûr. Alors donc, tout ça, ça fait, j'en suis très touché, évidemment. C'est toujours ce problème de relais, quoi. Moi, j'ai eu le sentiment d'avoir eu à temps et d'avoir su saisir un relais dans cette chanson. J'étais un peu autiste, pas vraiment, parce que c'est très difficile à guérir. Non, je n'étais pas vraiment autiste, mais très secret, très enfermé sur moi-même quand j'étais jeune. Et puis vers l'âge de 17 ans, me voilà, par le hasard d'un CRP, agent d'entretien à la faculté des lettres de Mont-Saint-Aignan. Côtoyant des étudiants et des professeurs. Des professeurs vachement sympas avaient créé l'université populaire. J'assistais le soir aux cours pour me rattraper un peu de tout ça. Et ils avaient remarqué un peu l'attention que je portais à tout ça. Alors, dans l'atelier où je bossais, ils me rapportaient des bouquins avec un petit mot vachement sympa. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé, d'une manière très prétentieuse, intelligent pour pouvoir continuer de parler avec mes camarades d'enfance, et puis toujours un peu con pour continuer de parler avec les étudiants et les professeurs. Et j'ai trouvé un langage qui me paraissait être universel et réconcilier tout le monde, c'était celui de la chanson. Ce moyen oral populaire qui permettait à la fois d'exprimer des choses suffisamment profondes et suffisamment légères à la fois, avec cet emballage musical, ce côté tendresse, ce côté expression. Donc voilà pourquoi je fais de la chanson et pourquoi c'est mon moyen d'expression.
Moi, je me souviens d'être allé voir Guy Denis, vous-même, Éric Larenne, Louis Arti,
des frangins,
Serge Gérouillo.
Oui.
Il y avait à chaque fois un moment humain très fort. Pourquoi la télé n'en a pas voulu? J'en parlais avec des professionnels qui me disaient, mais oh, ils sont chiants, chiants comme Brassens, Brel et Ferré. J'en ris aujourd'hui, vaut mieux en rire. Vous êtes tombé au mauvais moment?
Non.
Par rapport à la carrière, au succès, au business?
Parce que, en définitive, chaque fois qu'on me pose la question, je dis, oh là là, c'est terrain glissant, je ne veux pas m'aventurer là-dessus, parce que on va me dire, ça y est, il est aigri, il est tout ça. Pour moi, c'est terminé. Vous savez, j'ai... Bon gré, mal gré, je suis quand même assez privilégié. J'ai la possibilité d'écrire 380 chansons, de vivre de ce métier grâce à la scène, d'avoir un réseau de gens qui m'aiment bien. Bon, la télé n'est pas tout dans la vie. Heureusement, il y a des outils que je ne maîtrise pas tout à fait, comme Internet aujourd'hui ou d'autres, ou la radio qui m'a beaucoup aidé aussi. On ne tire pas les pompes, mais et votre émission et d'autres, le service public notamment.
On n'a fait que notre devoir.
Le service public, entre autres. C'est une anecdote, mais enfin, quand je vois que faisant une création dans le Cotentin récemment avec mon ami Le Monnier, s'appelle Parole de Manchot, parce que je suis né dans la Manche. Un journaliste vient m'interviewer en disant comme ça, mais comment se fait? Ils sont avec une caméra, avec un micro. Ça fait quand même 25 ans que j'existe. Je dis, mais vous avez le culot de me demander ça. Et je suis saisi tout d'un coup parce que on bafouille dans ces moments-là. On dit, mais c'est, je prends le micro et je vous pose la question à vous, si vous voulez. Mais la posez pas à moi, s'il vous plaît, faites-moi, ne faites pas cet affront, tout de même.
En tout cas, dans votre œuvre, il n'y a pas de concession. Vous n'êtes pas un fils d'eux non plus, comme on dit, mais pourtant vous avez.
Ah si, un fils d'eux.
Vous avez presse. Un père, artisan. Peut-être que c'est ça aussi le vrai métier, c'est l'artisanat. Même en chanson, sans faire du lyrisme.
Non, j'y tiens beaucoup, parce que c'est vrai que c'est tout cette. Ce travail patient, mais qui n'est pas du tout, je veux dire, un travail de fatigue, quoi, et qui est un. Au vu du résultat, quoi, qu'on obtient, et puis de l'accueil qu'on peut en avoir, nous réconforte terriblement. C'était le cas pour mon père, c'était le goût du travail bien fait, quoi, enfin, cette. Ça, c'est mon salaire.
Ouais. Ça va être ça, le métier, dans quelques années. Ça commence à être ça. D'un côté, il va y avoir, et il y aura toujours à la télévision, la télé qui fabrique des artistes, qui les entretient, et qui les exploite, et qui les montre à outrance. Et puis, il va y avoir les troubadours, de plus en plus, qui vont vivre essentiellement de leurs concerts, puisque on sait
que pour les marchés du disque, il y a des difficultés. Et des artistes attachés aussi à ce public continueront toujours à se donner fidèlement des rendez-vous. Et la télévision ou d'autres, je ne crache pas dessus, mais bon, qui scient eux-mêmes leur branche, et puis je veux dire, qui se plaignent eux-mêmes. Moi, je ne me plains pas. Qui on entend se plaindre aujourd'hui, c'est le métier. Le métier, pour moi, ça n'existe pas. Le métier, c'est écrire des chansons. À la rencontre des gens, c'est. Le métier, c'est un crayon de papier, c'est une feuille de papier, c'est la chanson finie. Le reste, quand on me dit, mais vous savez, mais vous faites pas le métier, vous ne savez pas faire le métier, mais c'est quoi faire mon métier? Mais bon sang, j'allais dire un gros mot, c'est ça faire mon métier. Ouais. Attends, si on veut les écouter, comme disait Brassens, je les remets dans ma culotte, hein.
Faites, Alain Leprest. Il n'ignore pas que vous avez eu un pépin de santé.
Vous rattrapez le temps perdu, là? Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez?
Oh, j'écris pas plus qu'avant. On peut en parler, parce que c'est vous. Et vous savez, j'étais, évidemment, comme je suis un papivore, je lis beaucoup la presse, et puis je lisais tout sur la disparition de Bizot, qui était un des créateurs de l'actuel, ouais. Et qui avait donné un nom à la petite bête qui le rongeait, je crois qu'il l'avait appelé Francky, son petit crabe. Mon petit Francky, il va bien. Enfin, c'est pas lui qui va bien. Et moi, je dois sans doute lui avoir trop, lui m'a donné à manger. Alors peut-être, sans doute même, un jour il va se tirer, il va prendre ses petits bagages, tout ça et tout, il va partir en voyage ailleurs. Tout ça, ce qui me fait dire, c'est que il y a un lien qui en fait ma vie privée, qui fait que ça n'est pas un plus ni un moins dans mon métier, ce sont des aléas de la vie, tout ça. Qu'est-ce que ça m'aura apporté plutôt que non pas de la précipitation, non pas tout ça, c'est un regard un peu plus précis, un peu plus lucide sur les autres, un peu plus doux, j'espère, un peu plus de patience. Dans l'écriture, je ne sais pas. Et paradoxalement, peut-être un peu plus d'humour. Voilà, par rapport à ces choses, ben oui, parce que, après, bon, ben, on parle de toutes ces choses en disant, oh, un jour, quoi, on picole, on fume, ça et tout. Un jour, on apprend précisément, on entend un toubib qui dit des mots qui sont pas agréables à l'oreille, tout ça et tout. On se dit, bon, ben, ça y est, dit, quoi. Bon, maintenant, faut gérer, quoi. Mais ceci dit, c'est, voilà. Mais ça va bien.
Mais je le constate. Alors, il y a Francky, mais je voulais simplement parler de ce moment où on se retrouve cloué sur un lit d'hôpital, ce qui n'a rien de drôle. Et on se dit, mais je vais me relever, et quand je vais me lever, je vais faire ça. Et il faut plus perdre de temps.
Bah, c'est-à-dire, je me suis jamais couché, en fait. Et j'ai eu la chance d'être... on parle de radio publique, de radio, de service public, et ça me permet aussi de saluer aussi les hôpitaux publics, parce que moi, j'étais à Brousse, je suis toujours à Brousse, et j'ai une équipe absolument extraordinaire, je veux dire, qui reste aussi dans l'ombre, comme certains chanteurs restent dans l'ombre. Et ce sont des gens qui m'ont toujours encouragé à rester debout et non pas à rester couché. À me dire comme ça, ouais, mais allez-y, monsieur le Prest, mettez-vous debout, qui avait appris que je chantais au Théâtre du Renard, tout ça et tout. Certains étaient étonnés, puis qui ont su que c'était vital pour moi. Grand mot, vital. Et qui se sont aperçus que c'était une thérapie qu'on pouvait souhaiter à tous les gens atteints d'un mal difficile quand même, mais que ça réveillait bien, quoi. C'était bien. Et tous ces gens-là, j'en tire un énorme coup de chapeau, et de m'avoir permis justement de ne pas rester allongé. Je suis resté très peu.
Comme dans vos chansons, voilà des mots qui parleront à beaucoup, encore une fois.
À la boutonnière, Caroline des Panoyaux, jusqu'au temps des cerises, un sourire supérieur aux normales saisonnières, coquinement cachées. Tortons les charges grises, nanana, nananère. Le soleil s'échauffait. Pour son premier corner, des gamins se lançaient, des injures de football, des moineaux démarraient, leur assemblée plénière, mes semelles piétinaient. L'ombre de tes épaules, nanana, nananère. Dans le square tout à coup, les arbres frissonnèrent, Saint-Paul sonne à midi, quand le ciel s'assombrit,
un vent froid et bouffa le feu de ta grenière. Les enfants des Piaps ne firent plus un bruit. Qui arrive à tout le jour, la terre de luminaire, ou juste et simplement un céleste pique-nique. Nananananananère. Salut aux fous chantants, le soleil et la lune avaient noué nos ombres, buissonnières, buissonnières. Passa dans le ciel un édredon le plus qu'en rue des panoyaux ou bonnières. Nananananère, rue des panoyaux, brilla la pouponnière. Nananananère, rue des panoyaux, brilla la pouponnière.
Sous les étoiles exactement sur France Inter en compagnie cette nuit d'Alain Leprest pour cet album qu'on n'a pas fini de découvrir ici quand auront fondu les banquises. Album qui regroupe bien des talents et des amitiés fidèles. Ils ont collaboré à cet album. Daniel Mille.
En tout bien, tout honneur.
Romain Didier, évidemment. De toute façon, il est obligé.
Je le mets à la tâche à tous les coups.
Nathalie Miravette, qu'on entend souvent auprès de... Si, elle est très drôle, très marrante.
Grande complice.
Thierry Garcia, Jehan, Yves Jamais.
Géant de la guitare.
Lionel Suarez.
Dominique Kravitz, Hervé Leger.
Et puis il y a Didier, l'organisateur de tout cela.
Bien sûr, Didier Pascalis, oui. Une nouvelle maison de produire, enfin une nouvelle maison de production, oui, on peut dire, elle est toute jeunette, hein. T'as cette production et c'est tout à son courage. Je veux dire, aujourd'hui, on pourrait dire dans un moment où on dit le secteur en crise, je veux dire de vouloir miser ses économies en définitive encore dans cette profession en misant sur des tocards comme moi. Oh non, vous allez dire encore que je m'immunise. Non, pas du tout, je dis ça en rigolant.
Pendant des années, j'ai dit que c'était pas un service à vous rendre, sans doute, si je peux me permettre de juger, de dire, ah, le plus grand auteur de sa génération, le grand poète. C'est bien aussi de douter, mais faut pas faire l'inverse non plus.
Non, non, non. Non, non, mais je dis ça sans fausse humilité. Je sais quand une chanson est réussie. C'est peut-être pour ça que je mets tant de temps. Des fois, je fais chier vraiment les producteurs et puis peut-être les maisons de disques. Je dis pas que je les ai épuisés, mais bon, des fois, je suis un peu difficile à comprendre parce que. Je dis non, pas cette chanson, non, pas cette chanson, non, pas cette chanson, je peux pas supporter ce vers. Et même quand je suis en train d'enregistrer, je dis ah non, 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 pas ce mot-là. Alors, il s'arrache les cheveux, forcément.
Il y a des chansons de vous que j'ai réécoute sans arrêt, parce qu'elles me font du bien, parce que elles me font du mal aussi. Je me dis quand même, il a été capable d'écrire ça. Quand même. La Gitane, par exemple.
C'était prémonitoire.
La colère. Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Quelle idée sublime. Vous l'avez écrit pour Foulquier, en plus.
Oui, on avait le projet avec Romain d'écrire pour Jean-Louis. On s'était concocté ça, on s'y attendait pas tellement. Et puis en fait, c'était à Chaulvière, Romain habitait déjà là-bas. Et juste avant qu'il arrive pour partager une partie de pétanque avec nous, il y a la phrase qui jaillit, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Et le, je crois que 2-3 jours après, elle était faite et on avait demandé à Jean-Louis si le concept lui plaisait. Il a dit, ouais. Que j'ai eu il y a peu de temps au téléphone et qui va la super forme. J'embrasse.
Je ne sais pas si vous êtes le plus grand poète de votre génération. En tout cas, ici, on vous aime bien. On parle souvent de vous. À l'antenne ou hors antenne avec des artistes qui apprécient votre travail d'artisan. Et c'est une belle reconnaissance, tout comme le prix de l'Académie Charles Cros que l'on vient de vous remettre. Félicitations. On vous voit sur scène bientôt ?
J'ai un statut un petit peu particulier qui est très difficile à cause de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que je n'ai pas un droit tout à fait de chanter, puisque je suis en arrêt maladie. Alors ça fait drôle pour un chanteur de dire ça. On pourrait dire qu'il est toujours malade, un chanteur, en fait. C'est pas comme si j'avais l'amiante ou quelque chose comme ça, ce que je concevrais. Mais là, je participais de ma thérapie, je n'ai pas tout à fait le droit de le faire. Je le fais quand même, je le dis sur les ondes d'ailleurs, mais je vais faire des chapeaux. Des choses comme ça. Je suis bien obligé d'avoir un petit peu d'argent pour payer mes impôts.
Vous chantez et vous passez la casquette.
Et puis j'ai surtout besoin de chanter. Oui. Je dis comme ça.
Debout.
Oui.
On vous aime beaucoup, Alain.
Merci beaucoup.
Bonne route, qu'elle vous ramène ici plus souvent.
Merci.
Très prochainement. L'album est superbe, il s'appelle Quand auront fondu les banquises. Alain Leprest, avec deux L. Ça vous va bien encore.
Merci.
Salut.
Je sais, c'est le monde. Partout, mais ne mets pas. Je ne m'en retranche pas. Je le sais, c'est notre monde. C'est le cocon des humains. Mais est-ce vraiment le mien? Est-ce vraiment le mien? Je sais, c'est la terre. Ça n'est pas un sacrifice. Ne me crois un peu son fils. Je le sais, c'est notre terre. Saisons sont-ils vraiment bons? c'est un livre ouvert. Je le sais, c'est un désastre. C'est un joyau dans l'espace. Y suis-je bien à ma place? Y suis-je bien à ma place? Il est ni dans l'avion Paris, ni les roses pompons du quai des Tuileries, les ombres du Prado, non plus la pluie battant contre les bancs windows et passe par le port tout le jour s'apitoie. Je n'aime rien tant, rien ne m'aime tant que toi. Aucune farandole, aucun fil de feriste, pas davantage l'or du toréador triste, ni la nuit des cheveux incendiés des copains, le cabot famélique au chevet du poète, ses années de pinceau ficelées à ses doigts. Je n'aime rien tant, rien ne m'aime tant que toi. Je n'aime rien tant, rien ne m'aime tant que toi. Ni le dernier accord d'un petit bal perdu, le marchand de fumée, le café, la statue, au sein muet, aux yeux de pierre, au cul superbe, le cheval qui est ni dans le roulis des herbes, ni le linge étendu aux entraînes des toits. Je n'aime rien tant, rien ne m'aime tant que toi. Je n'aime rien tant, rien ne m'aime tant que toi. Il y a des dieux, des volcans, rien de l'Amazonie, du petit dernier vert et rien de l'infini, rien des banquises, rien des silex et du sang, du sexe de la mer, rien du soleil glissant, dans sa robe de chambre, l'aiguille des Bretons. Je n'aime rien tant, rien ne m'aime tant que toi. Rien ne m'aime tant que toi.